Le grand témoin. Bonjour et bon dimanche chez vous, grand témoin. Vous fait découvrir aujourd'hui Dolly Ibefo Mbunga. Il est directeur exécutif de la Voix des Sans Voix. C'est une ONG de défense des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Je dirais même la plus importante association de défense des droits de l'homme en RDC. Et celui que nous allons vous présenter aujourd'hui, Monsieur Dolly Ibefo, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci.
C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission parce qu'avec vous, nous parlerons de votre expérience comme défenseur de droits de l'homme. Ça fait plus de 20 ans que vous êtes dans ce domaine.
Oui, je suis là depuis plus de 20 ans, oui.
Alors, on va en parler tout à l'heure dans cette émission, mais avant cela, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né un certain 4 mars 1961.
Exactement.
Où c'est?
Je suis né à Kinkosi, dans la province de Bandundu, territoire de Kasongolunda, district du Kwango.
Et c'est là où vous avez grandi? Vous avez passé votre enfance?
Oui, j'ai passé toute mon enfance là-bas. J'ai fait mes études primaires chez moi, à Fangongo, à 7 kilomètres de mon village. Le secondaire... à 25 kilomètres dans la mission catholique Kitenda, à l'institut Lutondo, un institut de frères de Saint-Joseph de Kisanto.
Et de là, vous êtes venu à Kinshasa pour poursuivre les humanités et les études supérieures?
Oui, après mon diplôme, disons après ma sixième biochimie, j'ai été retenu comme enseignant de mathématiques, chimie et physique. Et de là, une année après, je suis venu à Kinshasa pour les études.
Vous êtes fort en maths et en physique?
Oui, je suis chimiste, donc le cours de mathématiques, disons les mathématiques, c'est une des branches principales de la chimie.
Après une année passée comme enseignant?
J'étais d'abord en premier en préparatoire mathématique, où je devrais entrer en première année mathématiques à l'université de Kinshasa. Cette année, je n'ai pas eu de moyens, je viens d'une famille pauvre, et j'ai été pris par des religieux dans le Bas-Congo, comme enseignant de mathématiques, physique et chimie. Après, j'ai commencé ma première année graduée en chimie physique, à l'Institut supérieur pédagogique de Mbanzangongo, où j'ai fait la première année. Ensuite, je suis venu à Kinshasa, à l'IPEN, à l'Institut pédagogique national. Et c'est là que j'ai fait mon graduat en chimie physique.
Alors, vous êtes détenteur d'un graduat en pédagogie appliquée, option chimie?
Oui, exactement. Et quand j'étais étudiant, j'étais à la fois défenseur des droits humains. J'étais souvent en contact avec tous ceux qui intervenaient en faveur des défenseurs des droits humains.
Alors, on va en parler, mais dites-nous, quel est le souvenir qui vous a le plus marqué pendant votre enfance?
Tout ce que je peux, qui m'a plus frappé, c'est le fait d'être beaucoup plus aimé par des religieux. J'étais souvent dans les actions humanitaires. On intervenait souvent...
Dès le bas âge?
Oui, dès le bas âge, avec des religieux. Et j'étais même souvent sollicité par des religieux pour que je devienne un religieux. Mais j'ai dit, on peut servir sans être religieux.
Tout en étant marié?
Oui.
C'était pas votre vocation?
Non, c'était pas ma vocation. J'avais une autre vocation.
Pourquoi? Parce que vous considériez le couvent comme une prison ou il y a d'autres raisons?
Non, c'est pas une prison, mais comme j'avais souvent envie d'être libre, les couvents, il y a des libertés qui étaient vraiment restreintes, alors qu'il fallait être libre tout en respectant aussi la liberté des autres. Donc c'est comme ça que je n'ai pas pu, disons, choisir cette voie-là.
Alors, vous dites que dès les bas âges, vous avez travaillé comme humanitaire. Vous faisiez quoi concrètement?
Bon, nous avions des groupes qui s'occupaient de malades, qui assistaient des malades, et qui visitaient des gens dans des cachots. Là où nous étions, à l'internat, à 7 kilomètres, il y avait un poste d'État où parfois on était en train de détenir des gens là-bas. Parfois, on venait là-bas, on leur rendait visite, ceux qui étaient là. Mais c'était rare, mais parfois, on venait pour nettoyer là où on gardait des gens. Voilà.
Et là, c'était avec des religieux ou des religieuses?
Bon, le malade à l'hôpital, c'était avec des religieux. Il y avait un frère qui s'occupait de ça et que nous étions en train d'accompagner.
Vous étiez au service des autres?
Nous étions au service des autres.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie d'Oli Ibefo?
Je n'aime pas quelqu'un qui maltraite l'autre. C'est tout ce que je n'aime pas.
C'est votre combat?
Oui, j'aime quelqu'un qui doit aimer l'autre comme son proche. Et bon, en tant que biologiste, j'aime aussi tout être vivant. Et j'aime souvent les animaux, j'aime les plantes. Et chez moi, j'aime même des chiens et des chats.
Ah, d'accord. Ouais. Ce sont des animaux domestiques avec qui on vit hein, tous ouais, les jours. Ouais. Alors, Dolly, c'est quoi votre plat préféré?
Des légumes. Légumes particulièrement les haricots avec du riz.
Marié, père de combien d'enfants?
Je suis père de 4 enfants.
Qui vivent avec vous ici?
Oui, qui sont avec moi. L'aîné n'a que 15 ans.
Pourquoi vous dites que l'aîné n'a que 15 ans?
Oh oui, parce que...
Pour nous dire âge, qu'ils sont encore petits?
Oui, ils sont encore petits. Avec mon âge, donc on ne pouvait pas avoir un enfant de 15 ans. C'est-à-dire, on devrait avoir un enfant de plus de 15 ans.
Ça veut dire que vous êtes marié tard, vous avez des enfants
tard. Je me suis marié tard, je me suis dit, bon, je ne pouvais pas m'aventurer comme je voulais.
Sportif?
J'aime le sport, surtout le football, mais je ne suis pas footballeur, mais j'aime.
Vous aimez regarder
oui,
les gens jouer?
Oui, j'aime regarder les gens jouer, tout ça.
Radio Capi, grand témoin.
Un grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui Dolly Ibefo Mbunga. Il est directeur exécutif de la Voix des Sans-Voix. C'est une ONG de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Dolly Ibefo, on va parler de votre expérience dans le domaine de droits de l'homme. Je l'ai dit dans mon introduction, ça fait plus de 21 ans que vous travaillez comme défenseur de droits de l'homme. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a poussé? C'était quoi le déclic pour que vous puissiez vous lancer dans la défense des droits humains ou des droits de l'homme?
Bon, c'est comme je l'ai dit, depuis mon enfance, j'aimais rester avec des hommes. J'aimais vivre avec des gens. Et je crois que cette habitude m'est venue avec le comportement de mon père. Mon père qui était un chef coutumier, un chef du village. Et il était souvent entouré de ces gens, de ces sujets. Et à tout moment, il traitait des affaires. Et moi aussi, je trouvais intéressant de voir cela, de vivre avec des gens. Je le voyais par exemple lorsqu'il y avait des histoires à partager. Et papa appelait tout le monde. Et il devrait servir tout le monde. Parfois, il nous oubliait nous-mêmes, mais il préférait servir tout le monde. Alors, je me suis dit que c'était quand même une bonne attitude de vivre avec des gens. Et papa me répétait à tout moment, me disait, mieux vaut avoir des gens, des hommes, que du matériel. Alors, j'ai retenu cela et je me suis dit, bon, il faut rester avec des gens. Il faut aider ceux qui étaient en difficulté.
Et c'est comme ça que vous vous êtes lancé dans la défense des droits de l'homme. Vous avez commencé ça à l'université, comme vous me l'avez dit tout à l'heure.
Oui, j'ai commencé cela à l'université. Je n'étais pas dans une structure, mais je suivais souvent, surtout pendant la période de la dictature de Mobutu, quand il y avait des répressions. Et je suivais des gens qui étaient blessés. Je les visitais, je les rendais visite. Et surtout, là où... j'étais beaucoup attiré à assister des gens qui étaient réprimés. C'était en 1987, il y avait un meeting, Tshisekedi avait organisé un meeting là. J'étais là-bas, je suis venu voir ce qui allait se passer et j'ai vu ce qui s'est passé. J'étais vraiment choqué parce que ce meeting était réprimé à sang. On a enregistré en tout cas beaucoup de morts. Beaucoup de blessés, des gens même qui étaient arrêtés. Moi-même, je ne sais pas comment je me suis échappé parce que je suis venu.
Vous étiez aussi dans la manifestation?
Non, je n'étais pas dans la manifestation. Je suis venu observer. Je suis venu observer au
par
point.
Par curiosité, juste voir comment ça allait se passer.
Ouais, ouais, ouais. Et comme je lisais beaucoup les documentations des Nations Unies où on parlait de la démocratie. Parce qu'à l'époque, à l'université ou même à l'école secondaire, on ne nous a jamais parlé de la démocratie. Et chaque fois, on nous parlait de parti unique. Mais je lisais des documents, la démocratie, que c'est un bon système politique et qui peut servir tout le monde. Et comme je lisais cela, et que le 13 parlementaire parlait de la démocratie, je me suis dit, bon, je veux voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il va dire? Et c'est comme ça que je suis venu. Je n'étais pas dans la masse, mais j'étais vraiment à côté, mais parfois entouré de militaires à l'époque. Ce qui s'est passé, ça m'a révolté. Ça m'a dit, non, pourquoi un être humain peut traiter comme ça son semblable? Alors je me suis dit, il faut se mettre, il faut s'aligner avec des gens qui veulent travailler pour les autres. Voilà, c'est comme ça que je me suis engagé.
Et vous êtes engagé où, dans quelle structure, dans quelle ONG?
Bon, je n'étais pas de la VSV, mais la Voix des Sans-Voix existait à cette période, parce que c'est depuis 1983. Mais je crois 2 mois après, d'une façon fortuite, on s'est rencontré avec Floribert Chebeya. C'était une manifestation des étudiants au niveau de Victoire. Par hasard, on s'est vu, on a parlé avec lui, et je me suis présenté lui aussi, et il m'a donné son adresse. Et comme moi je vivais à Kitambo, lui était à Banda. Et depuis ce temps-là, on avait des relations, mais pas des relations qui étaient très, très profondes. Mais les relations se sont accentuées avec la répression des étudiants à l'université de Lubumbashi à l'époque, parce que mon frère aîné était parmi les victimes, les personnes qui étaient arrêtées, et nous avons travaillé avec lui pour enquêter. Mais nous ne sommes pas allés à Lubumbashi, mais à partir de Kinshasa. Et c'est comme ça, à partir de là, les relations se sont vraiment améliorées avec lui et on est restés comme des frères.
Sans faire partie de la BSB, vous travaillez avec lui?
Nous travaillons avec lui et nous savions qu'il avait une organisation qui s'appelait la Voix des Sans-Voix. Et lorsqu'on travaillait, parce que moi je n'avais pas des éléments, en fait, pour pouvoir travailler en tant que membre d'une structure. Mais nous étions en train de travailler avec lui en me demandant, par exemple, aller chercher tel élément. Je viens, je lui donne, allons voir telle personne. Nous allons avec lui. Et lui, il avait des questions à poser.
Et vous avez adhéré à la VSB en quelle année?
Bon, à partir de là, directement, il m'a dit, parce qu'avec l'ouverture
démocratique,
Floribert m'a dit, non, nous devons ouvrir un bureau, le bureau de la Voix des Sans-Voix. Il faut que tu puisses être avec nous. J'ai dit, je suis pleinement d'accord. Et nous avons ouvert ensemble le bureau en ville. En ville à côté de vous, c'est Galerie Albert, c'est là où le premier bureau de la Voix des Sans-Voix.
Et en quelle année, comme ça, en 90?
C'était, en 91.
En 91.
Ouais.
Vous avez ouvert des bureaux en ville ici, aux Galeries Albert, et les gens venaient vous voir, vous consulter lorsqu'ils avaient des problèmes, lorsqu'ils étaient menacés?
Oui, les gens venaient, parfois nous on allait chez eux lorsqu'on est informé que telle personne est enlevée, telle personne est blessée, il y a manifestation de partis politiques. À l'époque, il y avait beaucoup de manifestations de partis politiques. Et nous, on partait chaque fois, on va au siège du parti, et savoir s'il y a eu des personnes arrêtées, il y a eu des personnes disparues, il y a eu des blessés, il y a eu des morts, on a enregistré tout ça.
C'est un travail que vous faites gratuitement?
En tout cas, on le fait gratuitement, on le fait vraiment sans calcul. C'est juste notre satisfaction, voir la personne qui est en difficulté par rapport à ses droits recouvre sa liberté.
Mais est-ce que lorsqu'une personne vient se plaindre auprès de vous pour dire que je suis menacée ou je suis poursuivie, vous vous limitez au témoignage de la personne qui vous raconte ou bien vous enquêtez aussi pour pouvoir confirmer les propos de cette personne qui vient se plaindre auprès de vous?
Bon, dans une enquête, on récolte toutes les informations. Là, on peut aller voir la victime. La victime raconte ce qu'elle doit raconter, ce qu'elle peut raconter. Nous allons aussi, parce que la victime, quand elle raconte, elle cite un auteur. Et nous allons aussi voir l'auteur qui est cité pour avoir son point de vue. Bon, généralement, avec le responsable au pouvoir, il n'accepte pas. Mais nous avons des moyens pour vérifier cela, pour voir que si réellement telle personne a été arrêtée, telle personne a...
Quel genre de moyens?
Oui, nous avons en fait des voies contournées. On peut voir quelqu'un qui est plus proche. Et, par exemple, les personnes qui sont détenues, nous pouvons aller voir les agents qui sont à la garde. Et généralement, ils n'autorisent pas, mais en insistant, quand ils se fâchent, ils peuvent craquer jusqu'à donner l'information. Voilà.
C'est pas un métier dangereux?
Très dangereux. Vous savez, défendre quelqu'un, c'est comme l'armée. Quand vous envoyez un bataillon au front, ils peuvent défendre les territoires et les populations qui y habitent. Mais ils peuvent aussi mourir là-bas. Et le cas le plus récent, c'est la mort de Floribert, qui est allé juste pour aller défendre les autres, et il est allé trouver la mort.
Alors, vous étiez son adjoint avant de devenir directeur exécutif de la Voix de Sans Voix.
Oui, à la Voix de Sans Voix, j'ai commencé d'abord par être enquêteur. Ensuite, chargé de programme. J'avais le programme d'assistance socio-médicale. Vous savez, avec la marche de chrétiens en 92, il y a eu beaucoup de blessés, sans parler de morts. Le blessé qui était abandonné dans les hôpitaux. La Voix des Sans-Voix qui rendait visite à ces blessés, demandait en fait de l'aide parce que les hôpitaux ne s'occupaient plus de ces gens-là. Et pour ça, nous avons fait un programme, un projet qui était financé par la coopération belge et j'ai géré ce programme-là. On a sauvé plusieurs vies des humaines et on s'occupait aussi des détenus dans des prisons. Nous étions là presque chaque jour, j'étais en prison, voir des gens dans des cachots. Parfois, moi-même, j'étais arrêté, on me met là-bas. Une heure après, on me libère. Ensuite, nous avons fait l'Assemblée Générale en 2008. En 2008, où on a restructuré la Voix des Sans-Voix. Et là, j'ai été élu directeur exécutif arigeois. Donc, je venais après Floribert Chebeya. Et à sa mort, et c'est comme ça que j'ai été élu directeur exécutif.
Alors en juin 2010, Floribert Chebeya est assassiné. Comment vous avez vécu ces moments-là?
C'est le moment le plus dur que j'ai connu. Vous savez, Floribert était plus que mon frère. Parce qu'on a passé plus de temps avec lui. Je peux vous informer, avant qu'il se marie ou avant qu'on se marie, on dormait ensemble avec Floribert. Lorsque nous étions des célibataires. Donc on vivait ensemble avec lui. Et même si on s'est marié, on s'est séparé, chacun se trouve en son coin, mais en tout cas, on passait plus de temps avec lui. Chaque jour, parfois de 8 heures jusqu'à 22 heures, on est avec lui, même le dimanche. Et je connaissais mieux Floribert. Et lui aussi me connaissait bien. Je connaissais ses faiblesses, je connaissais ses forces, tout comme lui aussi me connaissait mon comportement. Et lorsque j'ai appris, d'abord à une heure quand son épouse m'avait appelé, que Floribert n'était pas rentré, j'ai dit à l'épouse qu'elle soit calme, parce que John Numbi, c'était un ancien ami, et il est bien connu avec Floribert. Et s'il est fâché, il ne pouvait pas lui faire du mal. Il pouvait seulement le mettre au cachot. Et que le jour suivant, on allait le retrouver. Alors, le matin, quand j'ai constaté que jusqu'à 7 heures, je n'avais aucune information sur lui, ça m'inquiétait déjà. Mais j'étais choqué lorsqu'on m'avait appelé, qu'on venait de découvrir les corps. Vers 10 heures, on était encore à l'inspection générale de la police. Mais j'étais à côté de son épouse. Alors, je me suis arrangé pour ne pas vraiment montrer ma tristesse. J'ai fait partie de la femme, mais quand je suis resté, maintenant tout ce temps-là, je m'imaginais pourquoi on pouvait arriver jusqu'à ce niveau-là. Donc c'est un choc que j'ai eu.
Vous n'avez pas eu peur aussi pour votre vie en ce moment-là?
J'avais plus émotion de tristesse que de peur. Parce que je n'avais pas peur, je me suis dit, bon, on vivait avec Floribert, c'est un homme comme moi, mais il a trouvé la mort. Mais est-ce que moi aussi je ne mourrais pas? Bon, je me suis dit, bon, sinon je serais en fuite, je serais en exil aujourd'hui. Donc j'ai dit, non, je ne peux pas abandonner.
Le combat que nous avons commencé.
Oui.
Je veux continuer avec.
C'est ça.
Ben aujourd'hui, avant de refermer la parenthèse sur Floribert Tchebeya, 4 ans après, vous attendiez le verdict par rapport au procès Tchebeya. On a appris, la Cour s'est déclarée incompétente par rapport à ce procès.
Oui. Lorsque nous avons été notifiés par la Cour suprême de justice de l'audience d'hier, nous savions que la justice congolaise fonctionne comme elle fonctionne et que la situation, l'assassinat de Floribert, que nous considérons aujourd'hui qu'un crime d'État, on ne pouvait pas s'attendre à quelque chose. Donc, on est allé par formalité, les avocats sont partis.
Vous n'étiez pas surpris du verdict?
Non, on n'était pas surpris, on s'attendait à ça. Et que c'est de n'importe quoi qu'on pouvait raconter là-bas.
Mais il y a quand même un espoir par rapport à l'aboutissement de ce procès, parce que du côté du Sénégal, là-bas, on a ouvert une instruction judiciaire. Est-ce qu'il y a de l'espoir?
Nous comptons sur le Sénégal, parce que lorsque la justice congolaise, notre justice, ne veut pas nous rendre justice, non, qu'est-ce que vous voulez? S'il y a des gens qui cherchent à nous consoler, à nous rendre justice, je crois que nous pouvons mettre tous nos espoirs sur ces gens-là.
Voilà, on va refermer cette page triste hein, de la VSB, c'est l'assassinat de Floribert Tchebeya. Revenons à vous, Dolly Ibefo Mbunga. C'est en 2010 plutôt, ouais. Lors d'une assemblée générale, hein, que vous avez été désigné finalement directeur exécutif de la Voix des Sans-Voix.
Oui, c'est en 2010, juste en juillet, parce qu'on s'est dit, nous sommes au front. Le commandant tombe, nous ne pouvons pas nous dire, bon, c'est terminé pour nous. Nous avons dit non, nous prenons le bâton de commandement. Et c'est comme ça que nous avons tenu l'Assemblée Générale pour dire que nous ne sommes pas désemparés. Et tous ceux qui ont fait ça, et que nous étions là et on allait continuer le combat.
On va souffler un peu de l'Ibefo avant de continuer à parler de votre expérience hein, au sein de la VSV. On va souffler un peu. Est-ce que vous arrivez d'écouter de la musique?
Oui, je suis la musique congolaise.
De quel artiste, par exemple?
Bon, je suis plus le vieux.
Les anciens succès?
Oui, le vieux Luambo, Franco.
Pourquoi Franco?
Bon, lui, il chante la société. Il chante la société, le comportement, en fait, de la société.
Quelle chanson de Luambo vous ferait plaisir en ce moment?
Bon, il y en a beaucoup, je ne sais pas choisir laquelle.
Vous n'avez pas une qui vous vient en tête?
Oui, Mario.
Mario?
Oui.
Alain Goy, qui est de l'autre côté de la baie vitrée, va nous proposer la chanson Mario de Luambo Makiadi, pas seulement pour le plaisir de Dolly Ibefo que nous recevons dans cette émission, mais aussi pour le plaisir de tous ces auditeurs qui nous suivent partout en RDC et aussi à l'étranger grâce à notre site internet www.radiocapi.net. On va écouter un extrait de la chanson, puis on se retrouve juste après pour la suite de notre entretien. Thank you.
Oh Mario, Luka ta mwasi yo moko bala. Mario mosalo de kolinga ba mama mobokoli. Basuka yo te. Ah.
Lelo makambo lobi makambo na lembi e. Lelo bitumba lobi kosona e na baye e. Na boyi ko baby sandoto na matanga na lembi e. Mario na lembi e. Mario na baye e.
Oh Mario, nasi na peki sayo. Kulina kapesi bazena mbongo. Yo kandengi azaliko kabayo. Na mitema ya basipe na mibali. Yo motoze na badiplon mitano Mario. Sala kameme foro luka mosala Mario. Puna nini osako baby saka usambu sa kombo nobo Mario. Ah, alembi.
Baprotinga na pakolaka. Zote koma sembe sembe. Oko pete gana soka. Lopina sua maladi ya cancer. Lobi tango na kopola yo kini na ye. Mario na baye. Mario na lembie.
Ma familia Mario bakani saka. Mario ape saka nga mosoro. Nzo kanga moto na lati saka. E na le isaka e na lali saka e. Mario na lembie. Bima bima nanda konanda Mario. Bona nini nyongo ya bolingo e.
Kupete nga nasua. Epa izua ya lokuta. Epa izua ya biloko e.
Bakuta kinga na yango e.
Ikambo moke mosala kobo mabi.
Biloko ya ndako e.
Nasomba na lebi e. Mario na baye yo. Mario na lembio.
Mario, okutinga na biloko mombali mosusu asomba. Oyo kwelingi ya kofanda te Mario. Oyo kwelingi te olia na mesa. Kaka soki zuwe kangyo na poitrine. Olinaka kopeta ngai nakoboma biloko. Mario, sinasalisa yo mingi. Diploma si mangamu nasalisaki yo Mario. Bongo leyo nga kumi mwasi mabe. Mario likambo te. Ah!
Mobile akutinga na bomengo asengi ya komandenga na nimi. Mobile akutinga na bangenge asengi ya dirijenga na nimi. Na bandiko bimana ye,
babandiko penga ye monsieur.
Mario abimbi moto,
akanisi biloko na ngai ya ye.
Mario na baye yo, kende Mario na lembi yo.
Mario asongi epe ya babosi akuti mbeto na ye ya bomwana. Ekomi tango akolala mbeto mokuse makolo milai Mario. Mario na lembi e eh, eh. Somba mbeto na baye eh, eh. Mario na lembi e eh, eh, eh.
Koyoka motema pasite na konga moko na kutaka. Ila mana sombela yo na tikeli yo souvenir ya bolingo. Moye salina lavage na kotindela yo na bato. Mario na lembi yo kende na yo na baye yo.
Sois le col à fusée, Mario. Mario, mon salaire, pour faire un gars de banadi coco. Banangoya, yo. Olingo, beba, maman, mon bocoli.
Tenga na sua, epa izua ya lokuta, epa izua ya biloko.
Akuta tinga na yango,
ikambo moke mosala koloma biloko ya nako era somba na baye yo Mario na lembi yo bima bima na baye yo oh.
Mario na lembo ngwali kelemba mitutu kumisatu na sombi Mercedes 199 na ibisi Mario mkomosi to bima toke na osa promenade toke mina nzela Mario bina ngai yo zonga kotenga na zani na kumba kwa tu nkoba mwona kumgamu na sombi liyo ambo na ibisi Mario te nga pina na posa na kumba po eloko na sombi sika bato sipa mwona pengamu na sombi to weli volonga na Mario Mario akiteringa kwa tu nanzete
zoto ezali nano ya meme olingio mebi sanga elongi ipare pasi nyoso zwa kamosala ko mebi sabango bilongi kepanda na nestope na
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kelly Nkouté sur Radio Okapi.
Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Dolly Befo Mbunga, il est directeur exécutif de la Voix des Sans Voix. C'est une ONG de défense de droits de l'homme. Dolly Befo, comment vous vivez votre métier?
Bon, mon métier, défenseur des droits humains, je considère ça comme ma vie. Ma vie, parce que je trouve un plaisir de défendre quelqu'un. Je trouve un plaisir de consoler une victime. Je trouve un plaisir de rendre service à toutes les personnes qui sont en difficulté. Et je trouve un plaisir de donner mon opinion par rapport au comportement ou disons à l'évolution de la situation sociopolitique.
Est-ce qu'il y a une certaine évolution par rapport au respect des droits de l'homme en RDC aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire?
Bon, évolution, je dirais non. Aujourd'hui, on parle de la misère de la population. Et vous savez, la misère, ça amène à plusieurs choses, dont les violences et d'autres violations des droits humains. La situation, donc, n'évolue pas. Il y a la misère un peu partout. La majorité en fait de la population vit dans la misère, dans la pauvreté, alors que le pays est riche, mais la population la plus pauvre du monde. C'est un problème. Aujourd'hui, on parle de la démocratie, on veut aller aux élections, mais les gens se battent pour réviser la constitution, pour qu'il y ait les mêmes personnes qui restent au pouvoir pendant durant toute leur vie. Les avons vus la plupart, ils ont commencé parce que moi je suis observateur de la scène politique. Je les ai vus pendant la période de Mobutu. Aujourd'hui ils sont encore là, ce sont les mêmes qui tiennent en fait, qui donnent ces conseils là et donc qui sont habitués de vivre aux mamelles de l'État. Alors, ils veulent rester dans cette situation jusqu'à la mort. Et même leurs enfants, il y en a qui... Ceux qui sont morts, les enfants sont maintenant aux commandes. Et ils veulent continuer cette vie-là. Et je crois que c'est quand même un problème.
Vous l'avez fait. On nous accuse aussi parfois de trop pointer du doigt le pouvoir. Quand il y a une bonne action du gouvernement, on ne voit pas de communiqué de la VSV ou quoi que ce soit. Vous attendez seulement qu'il y ait une petite faille quelque part pour dénoncer. Et parfois, on dit même que vos dénonciations ne sont pas objectives.
Bon, d'abord, le principe de la défense des droits humains, c'est se mettre derrière la victime. Et généralement, ce sont des victimes qui viennent chez nous, et ce sont des victimes pour lesquelles on intervient. Et là, on nous juge d'être d'un côté. Et lorsque le gouvernement prend des mesures qui sécurisent ou disons qui protègent les droits humains, en tout cas la voix des sans-voix apprécie. La voix des sans-voix a toujours apprécié de tels comportements. Nous avons suivi par exemple le vice-ministre des droits humains qui visitait le cachot. Nous l'avons félicité. Nous avons félicité le gouvernement avec la promulgation, surtout le président de la République, avec la promulgation de la loi sur la Commission nationale des droits de l'homme. Nous avons félicité. Mais jamais nous n'allons applaudir lorsque on se met à réprimer les populations, ou on se met à arrêter des gens, ou on se met à enlever des gens et les garder au cachot secret. Là, nous n'allons pas nous taire. Dire qu'on n'est pas objectif, bon, ça c'est l'attitude en fait des auteurs, en fait des auteurs de violations des droits humains. Ils croient que nous devons applaudir tout cela, parce que même la personne a commis une infraction. Je ne vois pas quelqu'un qui n'a pas d'armes, qui n'est pas armé, qui n'a rien, qui est chez lui, à la maison, qu'on vienne l'arrêter à 2h du matin, armé, avec plusieurs véhicules pleins de militaires avec des armes. Ils viennent le prendre à 2h du matin, et puis on l'amène. Alors, dans des comportements comme ça, on ne peut jamais applaudir. Donc nous sommes au milieu du village. Lorsque le gouvernement travaille bien pour la population, nous allons l'apprécier, nous allons l'applaudir.
Alors Dolly Ibefou, plus de 20 ans dans ce domaine hein, de défense des droits de l'homme, vous avez déjà reçu des menaces, j'imagine, menaces de mort ou d'intimidation?
Le menace, c'est une vie quotidienne des défenseurs des droits humains. Vous savez, un criminel, permettez que j'utilise ce terme, un criminel, lorsqu'il est en train de commettre son forfait, si vous intervenez, et c'est sûr, il va vous menacer, il va même aller parfois chercher à vous nuire. Nous avons toujours été menacés, nous avons parfois été arrêtés, je venais de dire, quand on visitait des gens en cachot, mm-hmm. parfois.
On vous arrêtait pour une heure et puis on vous relâchait.
Une heure. La dernière fois que nous étions arrêtés, c'était avec Floribert. Nous avons passé 3 jours au cachot de Kinmazière. Lorsque nous étions enlevés par les agents de l'ANR, on nous a amenés au service spécial de la police.
Ça veut dire que vous êtes à l'habitude du cachot, quoi.
C'est un milieu. Lorsque je vais visiter quelqu'un ou je vais intervenir pour telle ou telle autre personne, il y a toujours des réactions. Des réactions qui peuvent être positives ou négatives.
Et votre famille, dans tout ça, votre femme, vos enfants, ils sont encore jeunes, c'est vrai, mais votre femme, est-ce qu'elle vous encourage à continuer à mener ce combat? Est-ce qu'elle n'a pas peur pour vous et même pour la famille?
Bon, au départ, quand on commençait là, la femme trouvait que c'est dangereux de faire ce travail. Mais je lui dis, mais c'est ma vie, c'est ma vie.
C'est un sacerdoce, quoi.
Oui, j'ai choisi ça, je suis appelé pour ça, et elle s'habitue, mais avec tous les regrets, surtout. La plupart de mes proches avaient peur quand ils ont appris qu'on a assassiné Floribert. Et beaucoup de gens se disaient qu'on était assassinés tous deux parce qu'à tout moment on était avec lui. Et effectivement, ce jour-là, on était avec lui jusque quand il partait. Et je l'attendais qu'à 20h, à 21h, il devrait me rejoindre au bureau parce que j'étais là, je l'attendais. Malheureusement, il n'est plus revenu. Donc la peur est là,
mais malgré la peur, vous continuez votre combat, vous continuez, vous vous dites qu'il faut continuer à défendre ceux qui n'ont pas d'appui, ceux qui ne peuvent pas porter leur voix pour dénoncer.
Oui, nous continuons le combat. Je crois que c'est c'est noble, parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils étaient victimes à l'époque de Mobutu. Ils étaient victimes, mais aujourd'hui ils sont au pouvoir. Malheureusement, les gens ont des mémoires courtes. Ils pouvaient se dire que non, ces gens-là, ils ne travaillent pas pour prendre notre pouvoir, mais plutôt ils sont là et ils nous aident à améliorer notre système de gestion. Malheureusement, les gens ont des mémoires courtes, ils ne peuvent pas croire à ça. Mais sinon, c'est un travail que tout le monde, qui est là pour tout le monde. Nous assistons en fait tout le monde, même les gens du pouvoir, parce que parfois ils sont victimes aussi de violations des droits de l'homme. Mais nous intervenons. Mais on enregistre plus les victimes du côté de l'opposition, disons, des gens du pouvoir.
Alors, quel est le beau souvenir que vous gardez de ce long combat que vous menez depuis plus de 20 ans? Il y a des bons souvenirs qui vous ont marqué?
D'abord, ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est l'ouverture du pays au pluralisme politique. Vous savez, à l'époque là, avant 90, nous étions là et c'était le parti unique, mais les gens se battaient. C'est tout le parti qui existait à l'époque, c'était l'UDPS qui se battait. Bon, on voyait aussi le Palou avec la dame. C'est pas avec les vieux, mais c'était la dame qui était au pays, la maman que j'ai vue à l'œuvre, que j'ai vue malmenée, ici, que j'ai tenté de visiter dans des cachots, parce qu'elle était arrêtée. Je crois qu'elle n'est plus dans les palos, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Donc, avec ces combats, on est arrivé à l'ouverture au pluralisme politique. Nous sommes dit, c'est mieux. Les combats non violents amènent à des solutions que tout le monde peut apprécier.
Voilà, la réalisation me signale il ne reste plus beaucoup de temps. On va devoir conclure avec vous, Dolly Ivefo. Quel message vous pouvez lancer à tous ces gens qui nous suivent en ce moment sur Radio Okapi, partout en RDC et même à l'étranger, je l'ai dit, grâce à notre site internet www.radiookapi.net.
Ce que je peux dire d'abord à l'opinion, que les défenseurs des droits de l'homme n'est pas un ennemi. Les défenseurs des droits de l'homme n'est pas quelqu'un qui pourchasse celui qui est au pouvoir, mais c'est quelqu'un qui veut le bien-être de la population. Donc il faut apporter secours à ces gens-là, à ces défenseurs des droits de l'homme. Il ne vient pas pour conquérir votre pouvoir que vous avez. Voilà.
C'est le message que vous donnez à tous ceux qui nous suivent en ce moment.
Merci.
Merci Dolly Ivefo. Je rappelle que c'était vous, notre invité aujourd'hui. Vous êtes directeur exécutif de la Boîte des Sans Voix. C'est une ONG des défenses des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Merci à Alain Goy qui était à la technique, au micro Kelly Nkouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sous la fréquence de la paix.